des gens abusés, manipulés, arnaqués. Vous avez toutes les preuves devant les yeux. Et maintenant, quelqu'un doit payer. La chaîne télé, Témoin, pour des scandales en série. Débrouillé dès le mardi 9 avril.
Parce qu'en immobilier, faut être à son affaire. Suivez les conseils de nos experts. Via Capital, les courtiers immobiliers qu'on aime référer. Bonne écoute.
Martineau. Pour l'instant, nos avocats nous disent que tout est beau.
Alors, nous discutons avec Joseph Facal, l'excellent chroniqueur, Journal de Montréal, Journal de Québec. Salut, Joseph.
Bonjour Richard, comment vas-tu?
Ben, très bien. Écoute, tu écris une excellente chronique aujourd'hui sur la réforme du système de santé, mais avant, j'aimerais t'entendre sur l'Ukraine. L'Ukraine qui demande au Canada, écoutez, envoyez-nous des armes, là. On a besoin de l'aide des pays démocratiques, là. La Russie est sur le point de nous envahir. Et là, je t'introduis, on va vous envoyer d'équipements, mais pas des armes létales. Parce que nous autres, on est gentils. Au Canada, on y est fin. Fait qu'on va vous envoyer de l'équipement de surveillance, mais pas des armes. T'en penses quoi? Moi, j'ai l'impression que Poutine a déjà gagné, là.
Écoute, Richard, tu me mets mal à l'aise parce que c'est comme si, d'une certaine façon, tu avais lu dans mon cerveau et que tu avais une sorte de scoop psychanalytique. Non, c'est ma chronique de demain, Richard.
OK.
J'explique d'une certaine... Et je le dis à nos auditeurs... Ceci n'est pas arrangé de le gars des vies. Richard a réellement deviné ma chronique de demain, où je dis en substance, pile, Poutine gagne, face, Poutine ne perd pas.
Exactement.
Le pire, c'est un match nul. En fait, bon, réglons rapidement la question du Canada. Tu comprends bien que dans le dossier ukrainien, le Canada va être à la remorque des États-Unis et des pays européens. Et donc, évidemment, voyant déjà l'extrême timidité de nos alliés plus gros que nous, c'est évidemment pas Justin qui a au moins la lucidité de comprendre que le Canada est un joueur très, très, très moyen à l'échelle internationale. C'est pas lui, comprends-tu, qui va se dénuder la poitrine et aller faire face à Poutine, qui lui est un vrai tof. Donc la timidité canadienne ne m'étonne pas. Plus largement, ce qu'il faut bien comprendre ici, Richard, c'est que pour la Russie, l'Ukraine est une extension d'elle-même depuis des siècles. Des tas de russophones y habitent. Poutine n'est pas un politicien à l'occidental obsédé par les sondages et la prochaine réélection. Pour lui, chaque pouce du sol russe est sacré et l'Ukraine fait partie du sol russe. Et en plus, évidemment, il voit bien que l'Occident et les États-Unis au premier chef sont tétanisés par le fiasco irakien, le fiasco afghan et aussi évidemment rongés de l'intérieur par la paralysie politique, le wokisme, etc. Alors évidemment, il avance ses pions et ce qu'on ne voit pas aussi, c'est à quel point la Russie se rapproche de la Chine et de l'Iran et là évidemment les trois amigos s'entendent pour se reconnaître un ennemi commun, les États-Unis. Tout ça n'est qu'une autre manifestation de l'affaiblissement considérable des États-Unis à l'échelle mondiale et par extension de l'Occident.
Et c'est toi d'ailleurs dans ta chronique, je crois, corrige-moi si je me trompe, Joseph, mais qui parlait de Poutine qui se réjouit du mouvement woke qui nous paralyse en Occident.
Ah oui. Ben tiens, scoop pour scoop. Dans ma chronique de demain que j'étais en train d'écrire quand tu m'as téléphoné, j'écrivais, et je me cite, « Il en parlait récemment dans un discours que nos dirigeants auraient intérêt à lire. »
Tout à fait.
Effectivement, Poutine rigolait notamment de ces mémos qui circulent à Hollywood sur comment il faut raconter une histoire dorénavant, tu vois. Et Poutine, au fond, riait sous cap en disant « Ces gens sont leurs propres pires ennemis. » Enfin.
Mais écoute, est-ce que je vais trop loin en faisant un parallèle avec je sais qu'il faut jamais parler d'Adolf Hitler, là, mais tu sais, Adolf Hitler qui disait les Sudètes en Tchécoslovaquie, ce sont des Allemands et c'est tout à fait naturel qu'on entre en Tchécoslovaquie parce que ces gens-là appartiennent à l'Allemagne. C'est un peu ça là, qui se passe actuellement.
Alors écoute, Richard, je je souligne à gros traits de crayon feutre rouge et jaune ce que tu viens de dire et répétons-le pour que les imbéciles nous comprennent bien. Nous ne disons pas, toi et moi,
non.
Poutine et Hitler, c'est la même chose, pantoute. Mais le point commun est celui-ci. En politique internationale, la seule chose qui compte, ce sont les rapports de force. Tout le reste n'est que rhétorique et petit four dans des salons pour diplomates. Tout ce qui compte, c'est ta volonté de te tenir debout. Et à partir du moment où un dictateur voit que ceux d'en face sont un peu mous, il va en profiter. Et alors oui, évidemment, il y a un rapprochement à faire. Souviens-toi également, lorsque Barack Obama avait dit au régime syrien, si vous utilisez des armes chimiques, ce sera la ligne dans le sable et ça, je ne le laisserai pas passer. Il a laissé passer. Ben, et la guerre en Syrie a continué pendant encore des années. Alors, c'est ça l'affaire. Quand tu parles fort, il faut que tu te tiennes debout. Walk the walk, talk the talk. Sinon, les vrais autocrates, les vrais dictateurs en profitent et avancent leurs pions.
Exactement. Et l'Occident pense qu'en étant gentil, tout va se régler. C'est un peu la chronique que j'écris aujourd'hui. Là. Tu t'es cité, je vais me citer là, en disant, je dis, le Québec ne sera jamais indépendant. Pourquoi on est trop fin, on est trop gentil? Je veux dire, la souveraineté, ça se conquiert, ça ne se demande pas. Donc, on y est fin. Est-ce qu'on cogne à la porte d'Ottawa en disant, pouvez-vous, s'il vous plaît, nous donner la permission de vivre comme on veut?
Exactement. Exactement. Le rapport est tout à fait juste, tu vois. La gentillesse, ça permet peut-être de se faire des amis. Mais en politique, on n'a pas d'amis. On n'a que des intérêts. En fait, quelqu'un que je ne citerai pas quand j'étais jeune et en politique m'avait dit, Joseph, si tu veux un ami, achète-toi un chien.
C'est la phrase de Michael Douglas dans Wall Street. If you want a friend, get a dog.
Ah, OK, c'est là que ça vient.
Oui. Joseph, je reviens sur ta chronique excellente aujourd'hui parce que, bon, François Legault dit qu'il faut refaire le système de santé. Tu dis, ben, je veux bien, mais on n'est pas propriétaire, on est locataire, on dépend d'Ottawa.
Écoute, c'est un sujet extrêmement complexe et on a trop peu de temps. Il faut juste comprendre ceci. Engloutir encore des milliards dans le système tel qu'il est, on l'a essayé, ça n'a rien donné. On en est rendu à un point où une sous-ministre dit « Nous ne viserons plus le A+, mais un solide B pour tout le monde. » Bon, à partir de là, qu'est-ce que François Legault veut dire par « refondation » À mon avis, décentraliser plus ou moins, puis changer les acronymes, c'est pas ça une refondation. Il faut vraiment faire le vrai débat. Et à partir du moment où on n'a plus les ressources pour tenir le système tel qu'il est ou pour le renflouer, se pose évidemment la question du secteur privé. Et loin de moi, l'idée de prétendre que c'est facile, que ça ne soulèverait pas des débats déchirants et que ça solutionnerait tout. Après tout, le CHSL de Heron, il était en bonne partie privé. Donc c'est une question complexe. Mais à partir du moment où il faut faire ce débat, et je crois qu'il faut le faire, là, il y a un éléphant dans le salon, qui est que le gouvernement fédéral a, en 1984, adopté une loi fédérale qui dit aux provinces, si vous voulez du financement, vous devez respecter 5 principes fondamentaux, qui sont gestion publique, intégralité, universalité, accessibilité et transférabilité. Et là, Richard, je n'infligerai à personne un long cours. Mais il faut savoir que déjà, les provinces financent avec la loi, tentent de contourner le corset fédéral. Beaucoup de causes ont abouti devant les tribunaux, d'autres sont encore devant les tribunaux. Est-ce que tu te rappelles, Richard, au début des années 2000, la célèbre cause Shaoui, où il avait voulu justement desserrer l'étau, n'est-ce pas, du monopole quasi-total du secteur public. Et donc, évidemment, si on voulait vraiment, vraiment une ouverture plus large vers le secteur privé, je vois assez mal comment ça pourrait se faire sans une révision de la loi fédérale. Or, cette loi fédérale, elle est au cœur de l'identité canadienne.
Elle est inamovible.
Elle est aussi sacro-sainte que le multiculturalisme. Donc, tu vois, il y a un éléphant, un pachyderme, un mammouth dans le salon d'à côté qui est que être une province, ça a des conséquences.
Exactement, c'est la phrase, avec laquelle tu conclus ton texte. En santé comme ailleurs, être une province entraîne des conséquences. Parce que là, il y a bien des gens qui vont dire, il va falloir ouvrir la porte au privé dans notre système de santé si on veut vraiment le refondre de fond en comble. Mais c'est impossible parce qu'on est au Canada.
Voilà. Tu vois, en ce moment, les provinces, le sachant, que font-elles? Elles demandent au gouvernement fédéral, s'il vous plaît, augmentez vos transferts en santé. Et en effet, d'une certaine façon, les provinces ont raison. Quand nos régimes ont été mis sur pied, le gouvernement fédéral payait 50 % de la facture. Aujourd'hui, il ne paie plus que 22 % et les provinces disent à Ottawa, s'il vous plaît, ayez la gentillesse de monter ça à 33. Mais tu comprends bien, Richard, que si tu quémandes à Ottawa, tu acceptes forcément les conditions du gouvernement fédéral. Un peu comme lorsque tu vas à la banque demander un prêt, la banque fixe tes conditions. C'est la même affaire. Alors, notre statut provincial limite énormément notre marge de manœuvre pour essayer de réformer le système. Et c'est pour ça que depuis des décennies, on va de réformette en réformette qui ne change pas grand-chose.
Il va falloir que les gens s'en rendent compte. On vit chez papa-maman, puis c'est papa-maman qui dit à 10 heures, tu rentres à la maison. Il y a un couvre-feu, puis c'est comme ça, puis on mange à telle heure, puis on n'est pas chez nous.
Oui, ben ça, écoute, Richard, c'est quelque chose que, écoute, j'aborde la soixantaine, c'est quelque chose que je répète depuis une quarantaine d'années, et peux-tu croire, Richard, peux-tu croire qu'après un demi-siècle de débats sur la souveraineté, il m'arrive encore de recevoir des courriels où les gens me demandent et qu'est-ce qui arriverait de nos pensions de vieillesse, etc., etc. Autrement dit... Il y a encore des gens, Richard, qui ont de la peine à comprendre que ce qu'ils reçoivent du gouvernement fédéral, c'est le retour de leurs propres impôts. Tu vois? Alors, évidemment, il m'arrive d'avoir des moments de découragement. Mais bon, que veux-tu? Je me cramponne parce que je ne veux pas devenir un vieux papy grincheux et que j'ai encore de l'espoir pour ce peuple que j'aime.
Et en terminant, je veux t'entendre sur le Canadien national. Donc, la nouvelle PDG ne parle pas français, mais elle s'engage à suivre des cours. Comme le boss de la Banque Laurentienne aussi, et comme le boss d'Air Canada.
Et comme la gouverneure générale.
Ben oui, c'est vrai.
C'est très amusant, Richard, évidemment, parce que on nous dit que le Canada est un pays officiellement bilingue. Alors évidemment, il y a beaucoup de gens, dont la gouverneure générale, qui au fond nous disent, ben oui, je suis bilingue, anglais et inuktitut. Autrement dit, dans le bilinguisme canadien, la langue vraiment requise, c'est l'anglais. Pour le reste, très bientôt, dans l'autre langue, pour dire bilingue, le français risque d'être de plus en plus optionnel. Et ça, encore une fois, Richard, laissons de côté les sentiments et les amitiés, c'est une conséquence de notre démographie. À partir du moment où le français perd du poids au Canada, quand tu perds du poids démographique, tu perds du poids politique. On ne s'en sort pas.
On en sent, et puis il faut le répéter. Écoute, à chaque fois que je te parle, mon cher Joseph, je me sens comme dans une classe, puis on vient d'ouvrir les fenêtres. Ça aère les esprits, ça fait du bien. Des fois, c'est froid, ça peut être un peu inconfortable, mais c'est bon pour l'esprit.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup, Joseph Facal. On continue à te lire. Bye. Bonne semaine.